Décryptage, Marie Cazadebé.
Une journée de tous les dangers au Venezuela, un an et demi après la vague de manifestations réprimées dans le sang. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens répondent en ce moment même à deux appels à descendre dans la rue. D'un côté, celui de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale.
La fin de l'usurpation, l'installation d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections libres. Mesdames et messieurs, le 23 janvier, personne ne doit manquer dans la rue. Tout le monde dans la rue le 23 janvier.
De l'autre, le régime de Nicolas Maduro, qui vient d'entamer un second mandat, lui aussi a besoin de compter ses forces, alors que de nombreux pays étrangers ont refusé de reconnaître sa réélection et quelques dizaines de militaires ont appelé au soulèvement lundi. Les divisions plus visibles que jamais sont-elles le signe d'un régime fragilisé? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Pascal Drouot.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes le vice-président de l'Institut Choiseul, un think tank indépendant dédié aux questions de stratégies internationales. Vous vous intéressez tout particulièrement à l'Amérique latine. Et nous sommes aussi au téléphone avec Thomas Posado, docteur en sciences politiques, spécialiste du Venezuela. Bonsoir.
Bonsoir.
Les dernières manifestations d'opposition au président Maduro remontent, je l'évoquais, à 2017. Trois mois de mobilisation très durement réprimés. On a compté au moins 125 morts. Alors forcément, ça a marqué les esprits. Je vous propose pour commencer d'écouter les témoignages recueillis hier par notre correspondant, Benjamin Delisle, dans un quartier de Caracas, plutôt favorable à l'opposition.
Le 23 janvier, je vais rester chez moi parce que la répression du gouvernement contre les manifestants, contre ceux qui seront dans la rue, ils l'ont dit, sera sévère. Donc je préfère ne pas prendre de risques.
Ce Guaido, il a démontré qu'on peut lui faire confiance et beaucoup de monde le soutient. Le moment est venu. Je pense que si on ne sort pas maintenant, on ne le fera jamais et le gouvernement va rester encore 6 ans. Et avec cette situation, moi je ne reste pas 6 ans de plus dans ce pays. Donc pour moi, c'est la dernière tentative. On verra ce qu'il se passe et si ça ne marche pas, je préfère m'en aller.
Un nouvel élan pour les anti-Maduro, incarné par Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale. Pascal Drouot, est-ce que l'opposition vénézuélienne s'est trouvée le leader qui lui manquait, dont elle avait besoin pour exister?
Je crois. C'est vrai que, et le dernier témoignage est extrêmement explicite, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place au Venezuela et qui est bien différente de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc oui, Juan Guaido, jeune, a une force, une dynamique visible pour tous. Et en même temps, je suis frappé de constater qu'il paraît bien coordonné sur la scène internationale. On vient de le voir. Aujourd'hui, c'est une journée où on a le sentiment quand même que les événements s'accélèrent et font apparaître malgré tout une dynamique de transition qui se met en place. Depuis ce matin, les choses ont bougé.
On va l'entendre tout à l'heure. Évidemment, il s'est passé des choses. Mais comment, selon vous, ce personnage, donc, qu'il a 35 ans, a réussi à fédérer autour de lui une opposition qu'on disait assez divisée?
Je crois que le contexte actuel, le contexte national du Venezuela, contribue fortement à tout simplement un ras-le-bol. La situation économique, on le sait, est extrêmement difficile, c'est quand même catastrophique. Le niveau d'inflation pour cette année est attendu à 10 millions de pourcents d'inflation. Donc on ne sait même plus ce que
ça
veut dire,
oui.
Exactement. Alors même que le Venezuela est un pays très riche. Les réserves de pétrole du Venezuela représentent 300 milliards de barils. Donc ce pays, membre de l'OPEP, qui devrait être une puissance régionale, est aujourd'hui frappé par cette situation économique misérable et qui se traduit par le départ de millions de Vénézuéliens. Le Venezuela, c'est un pays qui compte 32 millions d'habitants. Depuis bientôt 3 ans, près de 2 300 000 ont quitté le Venezuela et sont allés d'abord en Colombie. 1 million de Vénézuéliens sont en Colombie. Imaginez ce que cela représente pour ce pays, parce qu'il va falloir intégrer ces personnes. Il faut pouvoir leur offrir un minimum de cadre de vie. Et 1 million sont partis vers l'Équateur, le Pérou et plus loin encore vers le Chili.
Ce que vous nous dites, Pascal Drouot, c'est que c'est un pays qui est au bord de l'implosion et qui avait finalement besoin de suivre un personnage dans lequel il se reconnaît pour essayer de sortir de cette situation-là.
En tout cas, la crise dure. Elle dure depuis longtemps, vous l'avez rappelé, il y avait des manifestations extrêmement importantes en 2016-2017, mais aujourd'hui on a l'impression que la situation se dégrade, dure, perdure, et qu'on peut de moins en moins faire illusion. Alors c'est vrai que pour autant, si, et on verra ce qui va se passer dans les prochaines heures et les prochains jours, cette dynamique visiblement de transition se renforce, et finalement se met en place, eh bien il y a deux blocs qui aujourd'hui, au moins c'est clair, se font face. Le bloc du président Nicolas Maduro et celui du président autoproclamé Juan Guaido, avec la reconnaissance de plus important comme les États-Unis.
On va y venir, puisque vous le disiez, les choses ont bougé aujourd'hui, donc avec ces deux appels à manifester. Et il y a une petite heure maintenant, Juan Guaido a profité donc des manifestations pour s'autoproclamer président. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, 23 janvier 2019, en tant que président de l'Assemblée nationale, invoquant les articles de la Constitution bolivarienne de la République du Venezuela, toute notre action étant basée sur notre Constitution devant Dieu Tout-Puissant, le Venezuela, et avec tout le respect de mes collègues et membres de la table de l'unité, je jure d'assumer formellement les compétences du pouvoir exécutif national en tant que président en charge du Venezuela pour parvenir à l'arrêt de l'usurpation du pouvoir, un gouvernement de transition et des élections libres.
Thomas Posado, on a besoin d'explications quand on entend Juan Guaido, donc président de l'Assemblée nationale au Venezuela, qui s'autoprogramme président en exercice. Il dit qu'il se repose sur la Constitution, finalement, pour se déclarer président en exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment en est-il arrivé à s'autoproclamer tout à l'heure président du Venezuela?
Alors, il considère que la Constitution permet de dire que Nicolas Maduro est illégitime, et c'est au nom de ça qu'il s'autoproclame président du Venezuela. Après, Juan Guaido, il a été simplement élu député, il a été député il y a maintenant 3 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses au Venezuela, des élections qui seraient réellement libres, réellement compétitives, devraient valider ce genre de choses avec une réelle implication de la population. Il instrumentalise une situation de faiblesse de Nicolas Maduro, qui a été réélu en mai dernier, mais réélu dans un scrutin qui a été entaché de graves irrégularités, l'invalidation de plusieurs candidats majeurs de l'opposition, une manipulation de la date de scrutin au gré des opportunités électorales du gouvernement, l'utilisation des programmes sociaux du gouvernement de manière hyper extrêmement clientéliste, avec une menace de retrait si les Vénézuéliens n'allaient pas voter. Donc il utilise cette faiblesse-là. Après, il y a encore des enjeux autour de la reconnaissance de Juan Guaido. Il a été déjà reconnu par la présidence du Brésil, donc de Jair Bolsonaro, qui a un respect de la démocratie dans son discours qui est extrêmement ténu, par Donald Trump. Donc il y a des intérêts géopolitiques autour de cette nomination, et où ce qu'il faudrait au Venezuela, plutôt qu'un choix entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, c'est réellement des élections où la population puisse participer. Les dernières élections présidentielles, elles ont marqué un taux d'abstention record. On était à 54%, c'est un taux d'abstention jamais vu dans une élection présidentielle au Venezuela.
Pascal Drouot, vous partagez cette position finalement? On a le sentiment que Juan Guaido tente là de s'appuyer sur la Constitution pour s'autoproclamer. Ça ne vaut pas forcément aux yeux de la loi vénézuélienne. C'est une utilisation des textes.
D'une part, peut-on en effet penser qu'il y a un combat entre légalité et légitimité. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, c'est en 2015 qu'il y a eu des élections législatives qui ont été gagnées en effet par l'opposition, dont est issu Juan Guaido et d'autres responsables de l'opposition. Et petit à petit, cette Assemblée nationale en fait a été vidée de son pouvoir, et ses prérogatives ont été d'une part prise, on va dire, préemptée par le Tribunal suprême de justice, qui systématiquement annulait les décisions qui étaient prises par l'Assemblée nationale, et à partir de 2017, une Assemblée constituante chaviste a été mise en place, et l'on voit bien donc cette action politique qui a conduit à isoler l'Assemblée nationale dont est issu Juan Guaido, et à côté la mise en place de nouvelles structures institutionnelles pour légitimer le pouvoir du président de Nicolas Maduro, qui a l'an dernier été élu dans les conditions qui viennent d'être indiquées au mois de mai pour un second mandat qu'il vient d'assumer il y a quelques jours.
Thomas Posado, finalement, le président de l'Assemblée nationale tente de reprendre la main. Ça a l'air de fonctionner, puisque dans la foulée de son annonce, Donald Trump l'a reconnu comme président en exercice, l'Organisation des États américains aussi. Est-ce qu'il a les moyens de faire peur au régime de Nicolas Maduro ?
En termes d'alliés géopolitiques, oui. Il y a le groupe de Lima également, qui présente le gouvernement conservateur d'Amérique latine, qui ne reconnaît pas la présidence de Nicolas Maduro, les États-Unis, l'Union européenne également. Nicolas Maduro mobilise d'autres alliés géopolitiques, la Russie, la Chine, la Turquie, à qui il offre des conditions, des prêts à des conditions extrêmement avantageuses, hein, qui sont en train d'hypothéquer le sous-sol vénézuélien. Le tout sous fond de sanctions des États-Unis qui empêchent le Venezuela de se financer sur les marchés financiers états-uniens et qui font que le Venezuela est en défaut partiel de paiement et se retrouve complètement étouffé. Alors étouffé, pas seulement pour ces raisons géopolitiques, qu'il y a derrière cette crise énorme qui se passe au Venezuela, c'est une crise économique, une ampleur sans précédent, avec un effondrement de la monnaie qui est inimaginable. La monnaie s'est effondré de 99,99% ces 3-4 dernières années. Ce qui fait que les Vénézuéliens ont un salaire qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins élémentaires, les plus basiques, se nourrir, se soigner. Ce qu'on découvre dans les dernières mobilisations, alors, les informations des tout derniers jours, c'est qu'on a pour la première fois des secteurs populaires qui commencent à se mobiliser contre Nicolas Maduro, notamment avec des soubresauts qui se sont passés autour de l'armée, et qui voit bien que Nicolas Maduro n'est pas en mesure de leur amener un avenir qui soit un petit peu meilleur et de redresser une mécanique économique, votre invité le disait, hein, où on a des taux d'inflation qui sont complètement extravagants, de 10 millions de pourcents, et où, dans les classes populaires vénézuéliennes, on commence à prendre un mécontentement qui était visible, mais qui pour l'instant n'était pas le cœur de lance de démobilisation de l'opposition, qui était plutôt centrée dans les quartiers les plus possédants.
Alors, finalement, Pascal Drouot, entre un président de l'Assemblée nationale qui trouve des alliés à l'étranger, et là, encore maintenant, à l'instant, la Colombie qui reconnaît Juan Guaido, le Brésil, et finalement cette population qui souffre énormément et qui le prouve encore aujourd'hui par les manifestations, n'en peut plus. Qu'est-ce qui va pouvoir faire trembler le régime de Nicolas Maduro, selon vous ? Est-ce que ça viendra du président de l'Assemblée nationale, de la population et de l'armée ? Évidemment, on va aussi en reparler.
En tout cas, on voit bien que les coups de bélier qui sont portés et qui viennent de l'étranger, de la communauté internationale, avec évidemment des soutiens dans le pays, font bouger les lignes politiques. Alors c'est vrai qu'il va falloir quand même faire très attention, être prudent. Le régime actuel est quand même bien en place. Comme vient de le dire M. Posado, il bénéficie d'alliés. Et pas n'importe lesquels. La Chine, il y a une véritable d'ailleurs offensive actuelle économique de la Chine en Amérique latine. Et là, la Turquie, le président turc a effectué il y a 3 ans une visite officielle en Amérique du Sud. C'était quand même la première fois que le chef d'État turc se rendait en Amérique latine. La Russie, l'Iran, bon, tout ça c'est un bloc international qui ne lâche pas M. Maduro. Toute la question est de savoir si ils sont prêts, puisque la position du président américain qui vient de reconnaître Juan Guaido est en même temps très claire. Hein, il a dit que tout était aujourd'hui posé sur la table compte tenu de la situation politique au Venezuela. Toute la question va être de savoir sur le plan international si les alliés du Venezuela sont prêts à engager un vrai rapport de force avec les États-Unis en Amérique latine. On n'est plus non plus dans les années 60-70. Les temps ont changé. Donc tout ça, ça va être observé. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les choses vont véritablement s'enclencher à partir du moment où les secteurs de la société vénézuélienne vont véritablement montrer leur appui à Juan Guaido, je pense notamment à l'Église.
On va reparler des appuis de Nicolas Maduro, mais je vous propose de l'écouter. C'était durant sa prestation de serment. Il ne l'a pas faite donc devant l'Assemblée nationale, mais devant le Tribunal suprême de justice. C'était le 10 janvier dernier.
Le Venezuela est le centre d'une guerre mondiale. L'impérialisme nord-américain et ses gouvernements satellites ont prétendu convertir une investiture formelle, protocolaire, légale, constitutionnelle et pacifique en une guerre mondiale contre notre pays.
Thomas Posado, à l'intérieur du Venezuela, sur qui peut encore compter Nicolas Maduro ? Est-ce qu'il peut compter sur l'armée, au vu de ce que l'on a observé lundi, le soulèvement de quelques dizaines de militaires rapidement arrêtés?
Pour l'instant, l'armée et l'ensemble des institutions étatiques, c'est les derniers atouts dont dispose Nicolas Maduro pour contrôler le Venezuela. L'armée en particulier, il a nommé autour de 2000 généraux, c'est complètement extravagant. Les militaires contrôlent la plupart des entreprises nationalisées récemment. Ils sont présents dans un tiers du gouvernement, dont particulièrement dans le secteur économique, l'économie, les finances, le pétrole. Un président de PDVSA, l'entreprise pétrolière publique, est un militaire. L'armée s'est considérablement renforcée sous Nicolas Maduro, paradoxalement, qui n'est pas issu de l'armée, alors que Chavez maintenait l'armée sous sa subordination et n'avait pas autant d'influence dans la société vénézuélienne sous sa présidence. Est-ce qu'il y a des mouvements d'insoumission dans l'armée ? Oui. Depuis plusieurs années, enfin, la situation économique aussi chaotique que connaît le Venezuela, c'est qu'on a eu un certain nombre d'événements. Enfin, voilà, pendant la crise de 2017, il y a une base militaire qui a été attaquée, un commandant qui avait pris un hélicoptère et qui avait attaqué à la grenade un ministère et le tribunal suprême de justice, un attentat au drone aussi. Ça a été des actions qui sont quand même relativement isolées, relativement désorganisés et qui ne sont pour l'instant pas de nature à renverser Nicolas Maduro.
Pascal Drouot, Thomas Posado, malheureusement la ligne n'est pas très très bonne. Je vais me tourner vers Pascal Drouot qui est en studio avec nous. Est-ce qu'il sera intéressant aussi de voir comment l'armée se comporte aussi durant cette manifestation qui n'est pas terminée? Je ne vais pas me tromper, mais il doit être 15h30 ou 16h à Caracas, donc ce n'est pas terminé. On avait vu 125 morts il y a un an et demi. Est-ce que là aussi on va en savoir un peu plus?
Oui, alors sur ça, la c'est position fondamental, de l'armée. Absolument. C'est fondamental et je constate que Juan Guaido a justement parlé d'amnistie. Amnistie pour ceux des forces militaires et de sécurité du régime qui pourraient à terme se rallier à lui. Et il a parlé d'amnistie. Donc ça, je trouve que politiquement, c'est très intelligent. Donc, en effet, tant que l'armée ne bouge pas, Nicolas Maduro doit être prudent, mais ne sera pas véritablement menacé. Ceci étant, cet appel à l'amnistie, pour moi, marque un premier point important qui va être un marqueur et que l'on va devoir observer, en effet, dans les jours qui viennent.
Avec une forme de concrétisation d'une opposition là qui se démarque et qui souhaite prendre le pas sur le régime. Dernière dépêche qui nous indique, là, cette fois, c'est le Pérou et le Canada qui reconnaissent donc à leur tour Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, comme président en exercice. On verra par la suite, évidemment, ce que ça va donner. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos éclairages, Thomas Posado, docteur en sciences politiques, et vous, Pascal Drouot, vice-président de l'Institut Choiseul. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Eugénie Ducré, Charles Barré et Jean-Philippe Thury à la réalisation. Tout de suite un point sur l'actualité africaine.